L'amour sut de telle sorte à me faire en moi ton portrait, que le peintre le plus doué si parfaitement ne saurait une telle image gravée. Tu as été par l'amour créé.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2024-2025, intitulé Faire oraison, c'est, trois petits points, septième épisode de mars 2025. Quand je fais oraison, je demande. Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Bonne écoute.
Je le sais, tu te trouveras dans mon sein figuré, et si vivement saisi, quand te voyant, il te plaira de te voir si accompli. Si par hasard tu ne savais pas en quel endroit me trouver, ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver, oh moi, ne me cherche qu'en toi.
Ce soir, toujours dans notre série « Quand je fais oraison », trois petits points, j'ai intitulé la rencontre de ce soir « Quand je fais oraison, je demande ». Et je me suis un petit peu lancé en quelque sorte, et j'ai un petit peu, c'est un peu des découvertes que j'ai faites, enfin c'est pas des grandes découvertes, mais je voudrais d'abord lire dans le livre de dans Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila, au chapitre 1er, je vais prendre quelques petits extraits, c'est assez célèbre, les deux groupes qui suivent avec qui on partage pour le à partir du chemin de perfection, ça va vous dire quelque chose. On est donc au tout début du récit que Thérèse fait de la fondation de Saint-Joseph, du monastère Saint-Joseph. Vers la même époque, j'appris les calamités qui désolaient la France, les ravages qu'y avaient fait les malheureux luthériens, les accroissements rapides que prenait cette secte désastreuse. J'en éprouvais une douleur profonde. La question, c'est pas de savoir ce que Thérèse pense vraiment des protestants. C'est pas la question. Là, je prends la chose de manière historique telle qu'elle. Mon divin maître ayant tant d'ennemis et si peu d'amis, je voulais que ces derniers du moins soient excellents. Je résolus donc de faire le peu qui dépendait de moi, c'est-à-dire de suivre les conseils évangéliques, etc. Je passe. Et Thérèse développe en quelque sorte ce pourquoi elle a pensé le Carmel Saint-Joseph comme un lieu où on va particulièrement porter dans la prière, ce qui laisse entendre qu'elle a une foi très forte dans le fait que la prière, ça fait quelque chose, entre guillemets, mais ça, il y a une réalité de la prière, et de la prière d'intercession. Bon. Et voici ce qu'elle dit, alors j'en saute beaucoup, mais c'était pour vous rappeler cela. Ô mes sœurs en Jésus-Christ, aidez-moi à demander cette grâce au Seigneur. C'est dans ce but qu'il vous a rassemblé ici. C'est là votre vocation, ce sont là vos affaires, là doivent tendre vos désirs. C'est pour cela, mes sœurs, non pour les intérêts du monde, que doivent couler vos larmes et s'élever vos prières. Ça, c'est assez célèbre, cette exclamation, il y aurait beaucoup à dire. Et elle ajoute, je ris, ou plutôt je m'afflige, en voyant ce que l'on vient nous prier de recommander à Dieu. C'est pour des revenus, pour de l'argent, qu'on veut que nous sollicitions Sa Majesté. Et je voudrais, moi, voir plusieurs de ceux qui en usent ainsi, implorer la grâce de fouler tout cela aux pieds. Ils ont une bonne intention, je le veux bien, et finalement, en considération de leur piété, nous cédons à leurs désirs. Mais, quant à moi, je suis persuadé que Dieu ne m'exauce jamais lorsque je lui adresse des demandes de ce genre. Et quoi, le monde est en feu, on veut pour ainsi dire porter de nouveau une sentence contre Jésus-Christ, on cherche à renverser son église, nous perdrions du temps à présenter à Dieu des requêtes qui, si elles étaient exaucées, feraient peut-être que nous aurions une âme de moins dans le ciel. Non, mes sœurs, ce n'est pas le moment de traiter avec Dieu des affaires si peu importantes. Alors, ce passage est assez célèbre, et il y a beaucoup de choses dedans finalement. Ce sur quoi j'appuie, vous l'avez entendu, c'est assez clair, parce que c'est aussi l'expérience de Thérèse, c'est que les gens viennent sonner à la grille du monastère de Saint-Joseph d'Avila pour, et ça revient souvent hein, dans ses textes, ça revient dans sa correspondance, pour des histoires de procès, pour des histoires d'héritage, pour des histoires de bonne vente, pour de, etc. Et elle dit avec justesse, je le veux bien, en considération de leur piété, nous cédons à leur désir. Et je précise tout de suite, parce que qui d'entre nous n'a jamais prié pour des choses très matérielles, finalement, avec des demandes assez claires? Ou qui n'a jamais prié parce que quelqu'un lui a dit « Regarde, on vend la maison familiale, est-ce que tu peux prier pour ça ?» Évidemment, quelqu'un qui vient dire « Regarde, demain soir je vais au casino, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Bon, ça va être un petit peu plus difficile, encore qu'on peut s'attendre à tout. Mais si je prends l'exemple de la maison familiale, d'abord parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, et aussi parce que c'est très proche de... Comment dire, c'est très inséré dans la vie. Hein, il y a des demandes qui nous... Enfin, il y a des besoins qui nous habitent et nous en exprimons des demandes les uns aux autres et il est certainement un petit peu normal que Dieu soit dans le décor, j'allais dire. Cela, c'est pour dire qu'il n'y a pas non plus à tout passer au crible en se disant, d'accord, est-ce que c'est une demande légitime ou illégitime? Je pense qu'on s'égare en allant là. C'est pas ce que Thérèse veut dire. C'est en amont que Thérèse attire notre attention et... Bon, si on en est là, enfin, si on en est là, si ça se présente, ben, ça se présente. Puis après tout, Thérèse, ça lui est arrivé de prier pour que le chariot dans lequel il y avait les sœurs pour telle fondation, il se rende à bonne destination. C'est normal. C'est normal parce que c'est tout notre être qui est pris justement dans cette relation de prière avec Dieu. Il reste que, il y a quelque chose, si je reviens en amont, « Ô mes sœurs en Jésus-Christ, aidez-moi à demander cette grâce au Seigneur. » Il y a déjà, je ne l'ai pas fait exprès, mais il y a déjà une première demande. Ça ne consiste pas à demander quelque chose de précis, c'est à demander cette grâce. Et laquelle grâce? Cette grâce, c'est... Alors, ce n'est pas si clair que ça, mais il faut prendre l'ensemble. Cette grâce, elle le réexplicite autrement. C'est là que doivent tendre vos désirs, c'est là votre vocation, ce sont là vos affaires, c'est-à-dire de désirer et aussi de pâtir, de désirer ce qui est bon pour le Christ et pour l'Église. Pas l'Église, enfin encore qu'à son époque, l'Église c'est aussi l'institution, puis je ne fais pas un partage entre les deux, mais l'Église dans ce qu'elle a de plus fort, de plus profond, de tous ceux et celles qui vivent de l'Évangile, qui sont saisis dans l'Évangile, parce que elle, ce qu'elle entend de la France, même si c'est y a du vrai et du pas vrai dans ce qu'elle entend c'est que au nom du Christ, on se tue, on s'entretue, c'est ça ce qu'elle entend. Et c'est parfaitement contraire à tout ce qu'elle croit de l'Évangile, et elle le demande. La première demande à faire à Dieu, c'est la grâce d'éprouver cela. C'est la grâce de ressentir ce qui est important, ce qui doit être au cœur de l'horizon, et puis ce qui ne peut pas être au cœur, même si on ne peut pas non plus le tasser avec hauteur, avec dédain. Alors, si je commence par cela, c'est parce que Thérèse parle de demander, très clairement, et qu'elle dit bien que hein, toutes vos oraisons, toutes vos etc., c'est pour ça, c'est pas pour autre chose. Fort bien. Cependant, je me suis trouvé en quelque sorte, pas affronté à un problème, mais je voudrais rester un petit peu fidèle en quelque sorte à la méthode que j'ai choisie dès le début de notre saison, qui consiste non pas à prescrire, l'oraison devrait être ceci, cela, à faire des définitions théoriques, mais à décrire ce qui nous arrive. Dit encore autrement, lorsque j'ai écrit « quand je fais oraison », trois petits points, je ne dis pas « pour bien faire oraison hein, », checklist, etc., mais « quand je fais oraison », quand je me trouve à l'oraison, vous, moi, hier, aujourd'hui, demain, il y a des choses qui se présentent, il y a des situations qui m'habitent, il y a des états intérieurs qui sont les miens, qui d'ailleurs ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux d'hier, qui ne seront peut-être pas forcément exactement les mêmes que ceux de demain, qui ne sont pas non plus exactement les mêmes, forcément, que chacun, chacune d'entre vous ici. Mais il y a quand même des choses qui se croisent. Bon. Et lorsque j'en suis venu à me dire ceci, quand je fais oraison, je demande, donc c'est supposé d'écrire quelque chose qui se passe, et non pas quelque chose qu'il faudrait que je n'oublie pas. Attention, ne pas oublier de demander durant l'oraison. Je vais revenir d'ailleurs là-dessus. Si je suis parti là-dessus en croyant d'écrire quelque chose qui se produisait, c'est entre autres à cause d'une réflexion alimentée par une lecture que j'ai faite par ailleurs, une réflexion très intelligente d'un grand philosophe français dont tout le monde savait qu'il était chrétien et qui en plus s'appelait chrétien. Ça ne s'invente pas des choses pareilles, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, un grand philosophe phénoménologue, poète aussi d'ailleurs, Jean-Louis Chrétien, et qui dit quelque part, sauf que je n'ai pas réussi à remettre la main dessus, qui dit ce qu'il y a de... Donc, il dit la chose encore plus simplement, il dit « prier, c'est demander ». C'est un petit peu surprenant, c'est un phénoménologue, donc je suis à son école, c'est quelqu'un qui décrit les choses telles qu'elles se produisent. Et dans le fond... ce que je voudrais un petit peu développer ce soir, c'est que lorsque nous réunissons pour prier, je parlais tout à l'heure, là, pour les trifluviens, trifluviennes, de cette veillée de prière qu'on aura auprès des reliques de Sainte Thérèse à la fin du mois de mai, à la basilique du Cap. On va, durant 1 heure, on va prendre du temps pour chanter, méditer, on va aussi faire des demandes. On va prier. Lorsqu'on est à l'Eucharistie, il y a un moment où on a des prières universelles, ce sont des demandes. Ce sont des présentations et des demandes. Bon, on peut aussi dire, à telle occasion, puis ça se fait, ça s'est déjà fait dans le cas de catastrophe mondiale, bah on va prier, on va tous se réunir, on va prier un chapelet pour telle intention, à telle demande. Bon. Seulement, il y a quelque chose qui... C'est pas majeur ce que je veux dire, mais c'est quand même pas rien. Dans l'oraison, au bout de combien de temps on peut estimer que la demande qu'on avait à porter, c'est bon, on peut cesser de la répéter ? C'est ce que je dis, somme toute assez simple, mais je reprends l'exemple d'une liturgie eucharistique, lorsqu'on en est aux prières universelles, puis là, moi je réfléchis déjà, veillée pascale, on va demander à des personnes de préparer les prières universelles de cette nuit de Pâques, c'est un moment important, donc de les méditer, les porter, qu'à l'arrivée ce soit simple, mais que ce soit porté par... Voilà. Dans la veillée pascale, c'est un moment précis, on demande, on énonce, on fait silence, on chante, puis on passe à autre chose. On passe à autre chose, on passe à la demande suivante, puis après, quand c'est fini, ben, la préparation de l'autel, la présentation des offrandes, etc., le rite suit son cours. Dans l'oraison, il y a quelque chose d'un petit peu curieux, et ça vous voyez que ça ne s'accorde pas directement. L'oraison n'est pas n'a pas un parcours comme une liturgie dans lequel on va pouvoir caser ce qu'on veut caser. L'oraison est justement un espace et un temps un petit peu, pas étrange, pas curieux, mais un petit peu de son propre genre, qui vient du fait que la prière, foncièrement, elle est un élan. Et cet élan, il est en quelque sorte, il crée son propre espace intérieur. Lorsque je me mets à faire oraison, souvenez-vous ce qu'on disait l'an passé au sujet de la porte, lorsque je me mets à faire oraison, c'est tout un espace intérieur en moi qui s'ouvre et qui n'est pas concurrent du monde, mais qui n'existe que dans la prière sur cette forme-là. J'entre, pour utiliser un mot de Jean de la Croix, le début d'un de ses poèmes, j'entre dans une sphère inconnue. Entre me donde no supe. J'entre. Alors, la traduction ne correspond pas à l'espagnol, mais c'est le sens. J'entre ou je ne sais pas. Et ça n'a de sens que parce que dans l'oraison, moi qui suis parfaitement immobile et l'oraison n'acquiert pas plus de valeur parce qu'elle dure 30 minutes que 20, donc c'est ni une question d'espace, ni une question de temps, il y a pourtant quelque chose intérieurement qui se déploie et qui naît du fait même que je m'y avance, que je m'y mets, que j'y entre, que j'y pénètre. Cet espace, il est aussi entièrement commandé par le fait que j'ai l'assurance, je sais à qui je l'ouvre. Je sais qu'il s'ouvre parce que c'est vers lui, c'est vers toi que je vais, toi mon Dieu, celui à qui je dis tu, toi. Et ça ouvre un espace absolument unique. On comprend bien qu'il n'y a aucune autre situation, aucune autre posture dans la vie qui puisse rouvrir le même espace. Même l'espace de l'intimité du couple, la proximité des amis, etc. Rien n'ouvre un espace similaire. Pourtant, c'est aussi un espace de relation. Alors, si je dis cela, c'est que, et j'insiste là-dessus, c'est pas référé seulement à notre thème de ce soir, mais dans l'oraison, je parle bien de l'oraison, parce que justement dans la la liturgie, la prière en commun, ou même le chapelet en commun, cette dimension de franchissement, foncièrement d'ouverture intérieure, n'est pas aussi manifeste. On ne vient pas à la liturgie eucharistique pour vivre un grand moment d'intériorité, même si on la vit avec une qualité d'intériorité. Mais la liturgie eucharistique est une liturgie communautaire avec des actes, etc. D'ailleurs, toutes les liturgies. Alors on les vit avec profondeur, on les vit avec conscience. Et il y a des moments dans la liturgie eucharistique, par exemple, où il y a de l'intériorité. Mais ça n'est pas la tonalité première. Donc ça n'est pas si flagrant, si manifeste que cela. Où est-ce que je veux en venir? C'est que, et c'est un petit peu similaire, j'ai pensé cela par après, c'est un petit peu similaire au fait de s'adresser à quelqu'un pour lui parler. Dans la prière, dans le fond, dans la prière d'oraison, peut-être que je viens avec des demandes, mais d'ouvrir l'oraison, d'entrer dans l'oraison, d'entrer dans cet espace que je connais déjà et qui est ouvert à jamais. Je fais une parenthèse là. À cause de cette expérience première dont j'ai peut-être plus exactement le souvenir, cet espace intérieur qui s'ouvre dans l'oraison est ouvert à jamais. Même s'il est parfois inapparent, même s'il se métamorphose, même s'il est indisponible, même si parfois il est décevant, même si parfois il est sec et obscur, il n'empêche qu'il est ouvert à jamais. Peut-être que c'est possible, je ne le sais pas. Peut-être. Il est peut-être possible que l'expérience de la vie soit telle, dans sa dureté ou dans que sais-je, qu'elle finisse par sérieusement recouvrir et à la limite effacer cette expérience première. Mais j'en suis pas sûr. En tout cas, je crois, je crois que la profondeur d'expérience et l'empreinte que cela porte dans notre être, dans ses profondeurs, dans la possibilité même que nous avons d'être, est telle que cette expérience est difficilement effaçable. Ça ne veut pas dire qu'elle est disponible à volonté, ça, on le sait d'expérience, on le sait bien. Alors, je ferme cela, je reviens sur cette idée que, cette description que lorsque je fais oraison, lorsque je me mets à faire oraison, c'est comme lorsque je m'adresse à quelqu'un pour lui parler, pas seulement pour dire quelque chose là, mais pour lui parler. Dans toute parole offerte, dans toute adresse authentique, simple, directe, qui cherche vraiment la relation et l'échange, il y a une demande. Si je viens vous adresser un discours, il n'y a pas de demande. Si on parle de choses qui n'ont pas plus d'importance que cela ou qui n'engagent pas nos personnes sur nous, il n'y a pas de demande. Il peut y avoir une conversation d'une très grande qualité, d'une très grande écoute, mais il n'y a pas de demande comme telle. Parce que qu'on parle de géopolitique ou qu'on parle de canne à pêche, c'est, dans les deux cas, ça peut être de grande qualité, mais on n'est pas vraiment, il ne s'agit pas directement de nous. Si je m'adresse à l'autre, si je prends le risque d'une conversation d'une certaine profondeur avec l'autre, et si je m'adresse, donc c'est bien pronominal, c'est moi dont il s'agit, il y a de manière intrinsèque, et en même temps, à la limite de l'explicite, il y a une demande. Cette demande, c'est « accueille-moi ». Cette demande, c'est « écoute-moi ». Mais pas le « écoute-moi » de « bon, écoute-moi, j'ai des instructions à te donner », ou « écoute-moi, j'ai une bonne information à te donner », ou « écoute-moi, j'ai réfléchi à ton problème ». Non, c'est « écoute-moi » parce que c'est, dans le fond, c'est moi qui parle. Et c'est moi hésitant, et c'est moi forcément... Si je suis sûr de mon coup, c'est que c'est pas moi. Si je suis sûr de mon coup, c'est que je suis sûr de la chose que je vais vous asséner, ou que je vais vous partager, c'est une bonne nouvelle, ou de mon discours tout fait, ou que sais-je, ça n'a pas d'importance, mais ça n'est pas moi. À partir du moment où ce que j'adresse dans la parole que j'adresse, c'est moi, il y a forcément de la vulnérabilité, de l'exposition, de l'hésitation, de la non-assurance, parce qu'il y a une relation à établir. Ça c'est vrai dans les relations qui sont profondément signifiantes entre nous. Et ce que je souligne, c'est que dans toute offre d'une parole de cette nature, il y a une demande. C'est en soi une demande. La demande n'est pas dans le contenu de ce qu'on dit. La demande est dans ce qu'il apporte. c'est m'accueillerais-tu dans cette exposition, dans cette vulnérabilité. Et vous comprenez en conséquence qu'il y a évidemment un rapport direct avec l'oraison. En fait, quand je fais oraison, je peux venir avec des demandes. C'est tout à fait légitime. D'ailleurs, je viens avec des demandes, je viens avec plein de choses. Là. Bah, ça dépend, parfois on vient avec rien, tellement rien qu'on se demande comment ça va se passer. Mais que je vienne avec quelque chose ou rien, il y a quelque chose de commun, c'est que dans cet espace qui est toujours ouvert et que je voudrais retrouver, hein, c'est drôle parce qu'en vous disant cela, je pense à la, je crois en plus que je l'ai déjà cité, mais ça me fait tellement sourire, la salle sur demande dans Harry Potter, dans le 5 pour ceux qui l'ont lu, c'est la salle qui n'apparaît que pour ceux qu'on lui demande, bon, et qui prend la forme de ce qu'on lui demande. Mais la comparaison s'arrête là parce que précisément, là, c'est un espace, l'espace intérieur d'une rencontre avec Dieu déjà vécue. Et lorsque je commence l'oraison, je peux m'armer de tout ce que je veux. En fait, il vaudrait mieux que je me désarme, parce que ce que je cherche, la forme la plus prochaine de ce que je cherche dans l'oraison, c'est exactement lorsque je m'approche, que ce soit une personne très bien connue ou une personne inconnue à qui je veux vraiment m'adresser, avec qui je voudrais nouer relation. Dans tous les cas, c'est bien moi qui vais m'exposer. Et bien dans l'oraison, c'est pareil. Et je ramène dans l'oraison ce que je vois dans cette parole qui, en fait, cette adresse même, c'est pas forcément une parole, cette adresse qui prend la parole, qui est une demande, qui est forcément une demande. Et cette demande, elle est à la fois informulée et très proche de l'explicite. M'accueilleras-tu ? M'écouteras-tu ? Moi, c'est pareil dans l'oraison. Il y a une dimension foncière de demande. Et j'ajoute quelque chose, c'est que cette demande, je fais une autre petite parenthèse. En réfléchissant à cela, je me suis dit, aujourd'hui, on dit à juste titre, hein, ça dit quelque chose de vrai, dans nos approches sociologiques et psychologiques, que nous sommes des êtres de besoin, des êtres de désir, que nous avons des attentes. Alors déjà, je ferai remarquer qu'entre une attente et une demande, il y a le pas de traduire l'attente en une demande. La deuxième chose, c'est que lorsque je demande quelque chose, je demande quelque chose. Lorsque je fais une demande, je cherche à être précis dans les mots parce que les mots révèlent des choses profondes. Si je fais une demande, alors je ne parle pas des... Moi, je suis en plein dans des histoires d'administration, là. Je ne parle pas de demandes qu'on fait par Internet, dont on ne sait jamais si elles aboutissent, on clique et bouf, ça s'évanouit dans le web. J'appelle pas ça faire une demande. Lorsque quelqu'un dit « j'ai une demande à te faire », ça prend son poids. Faire une demande, c'est autre chose que remplir un imprimé, c'est plus imprimé de nos jours, que remplir un formulaire à l'écran. Là, je parle de relations réelles. Bon. Ça, c'est pour faire sentir que le changement de vocabulaire, passer dans ce monde de je demande à je te fais une demande, ça dit l'importance de la chose et ça fait passer des attentes, des désirs, de tout ce qu'on veut à la demande, donc à une certaine formulation. Mais j'ajoute une deuxième chose, j'en reviens à ce que je disais concernant les attentes, les désirs, etc. J'aurais pu partir de cette approche, mais je pense que ça ne dit pas tout dans l'oraison, ou plutôt ça n'en dit qu'une partie. Cet espace que j'évoquais au début un peu longuement, cette mystérieuse posture intérieure qui est à la fois stable et ouverte, dynamique, qui est à la fois très intérieure et très vaste, et puis qui se dit avec des univers de signifiance qui sont assez variables de l'un à l'autre d'entre nous, c'est normal. Cet espace intérieur, il est aussi un espace où je suis profondément. Je suis profondément. Or, l'être, cette facilité d'être, cette liberté d'être, cette libération d'être, qui est la mienne à l'oraison, foncièrement, mais qui, à certaines périodes, peut être d'abord une souffrance d'être. Il est des passages dans notre vie, et ça se reflète dans l'oraison, et parfois l'oraison en est le lieu numéro un, où... être, c'est changer, se métamorphoser, la métamorphose peut être douloureuse, ne serait-ce que parce qu'on n'en voit rien, qu'on en subit que l'obscurité. Pensez au ver à soie et au papillon chez Thérèse d'Avila dans le livre des demeures. Tout ce qu'elle comprend, et c'est une métamorphose pascale, tout ce qu'elle comprend de la métamorphose du ver à soie et de l'invisible. Elle sait bien que le ver à soie, ça se passe à l'intérieur. Bon. Cette expérience d'être, cette expérience d'un être qui à la fois se reconstitue, d'un certain point de vue se réconcilie, voire éventuellement se laisse guérir, à certains points de vue, se métamorphose dans notre vie et spécialement dans l'oraison, cette expérience que nous avons là, qui nous fait sentir qu'il s'agit de notre être, son horizon, c'est la relation à Dieu, et son horizon, c'est Dieu donné, c'est-à-dire c'est Dieu qui se donne à nous, et Dieu qui nous fait vivre de lui-même. Et cet horizon, il est au-delà de notre expérience actuelle, des conditions de notre vie ici-bas. Ici-bas, nous vivons une lente métamorphose, une lente acclimatation à la vie selon Dieu, à la vie telle que Dieu veut que nous la vivions, qui n'est pas une vie affranchie des limites, qui n'est pas une vie complètement différente et distincte de tout ce qu'on a ici, mais qui est une vie qui est remplie de sens parce qu'elle est fondamentalement gagnée, elle est fondamentalement éclairée, elle est fondamentalement protégée, accompagnée par un amour qui se donne totalement et qui nous veut totalement, qui veut nous rejoindre totalement. Et c'est ça ce qui est dans notre, non pas seulement dans notre attente, mais dans notre demande. Parce que notre relation à Dieu, elle n'est pas seulement de l'ordre d'une attente. Elle est vécue, elle est réelle, donc elle se réalise. Elle prend réalité dans nos vies. Et ce que, au fur et à mesure, nous connaissons de Dieu, plutôt là je devrais parler au singulier, ce que je connais de toi, je suis obligé de parler comme ça, parce que c'est ça la vérité de notre raison. C'est pas un nous pluriel adressé à un Dieu inconnu. C'est un « je » singulier adressé à un « tu » singulier. C'est ça la vérité de notre raison. Dans mon adresse à toi, dans cette découverte que je fais de plus en plus de toi, mon Dieu, dans l'oraison, mon Dieu parce que tu es le Dieu qui se donne à moi et qui me fait vivre, et qui m'aime, et qui veut que je le sache, ce mouvement de demande reste entier. Il est à la fois apaisé parce que je suis reçu par Dieu, et à la fois, il est, non pas exacerbé, mais il demeure. Je continue de m'adressant à Dieu, de lui demander, mais me veux-tu? Me veux-tu moi? C'est ça le caractère le plus foncier de la demande. C'est le caractère le plus foncier de la demande dans un échange, dans une relation qui soit vraiment signifiante entre personnes. Parce qu'on se parle de plein de choses, mais foncièrement, et c'est toujours à la limite de l'explicite et du contenu, c'est dans le fond, est-ce que tu as le goût d'être avec moi? Encore une fois, que ce soit de couple, amis proches, toutes les relations d'amitié, d'amour qui sont profondément signifiantes. La question, enfin, c'est pas une question. Et c'est pour ça que c'est aussi une demande qui est peu explicitée, mais qui pourtant est là. C'est ce qui est en arrière, c'est veux-tu vivre avec moi? Parce que moi, je veux vivre avec toi. Et ça c'est de l'ordre d'une... Alors, ça peut pas toujours être sur le régime de la demande, parce que là, ça commence à virer dans l'instabilité psychologique, émotionnelle, etc. C'est pas ça le fond de la chose. Mais il est normal, parce que c'est une relation qui est parfaitement gratuite. Et c'est une relation qui n'est sous-tendue par rien d'autre que la confiance et l'ouverture mutuelle. Donc il est aussi... C'est normal, c'est dans l'ordre des choses que cette relation, elle se, non pas elle se vérifie au sens de je check, mais elle se redise. Donc elle se redise à nouveau sur le mode de l'offre et de la demande. C'est normal. Et dans le fond, j'utilise beaucoup ce qu'il en est de nos relations entre êtres humains, parce qu'il est bien évidemment, puisque c'est de l'ordre de l'interpersonnel, il est quelque chose de similaire dans l'ordre de notre relation à Dieu. C'est là-dessus que j'insiste. Ce sur quoi je voulais insister, parce que sinon ce ne serait pas complet, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est qu'il y a bien quelque chose de spécifique, bien évidemment, dans ma relation à Dieu, pas parce que Dieu est Dieu, on l'avait compris, mais parce que, si je reviens en, dans ces mots que je t'adresse à toi, à qui je parle, ce que je veux que tu entendes, c'est que le plus sincèrement possible, je veux que ce soit vraiment moi qui te parle. Alors je te dis des choses plus ou moins intéressantes, etc. Je suis peut-être complètement à côté de la traque, mais n'empêche que c'est ce que je souhaite. C'est ce que je désire, c'est ce que j'attends. Dans notre relation à Dieu, c'est la même chose. Dans une relation qui est foncièrement transformante par le fait de Dieu. Nos relations ici-bas, nos relations conjugales, parentales, fraternelles, etc., sont toutes des relations qui nous transforment. Qui nous transforment. Mais nous sommes de créature à créature. Et notre relation à Dieu est transformante, et dans l'oraison, elle est sur le mode de l'interpersonnalité, du « je et tu ». Il reste que, dans cette modalité du « je et tu », c'est bien le Dieu créateur et sauveur qui me rejoint. Et c'est du reste très mystérieux, parce que l'œuvre qu'il pourrait très bien faire sans rien me demander, il ne veut pas la faire ainsi. Parce qu'en fait, d'ailleurs, il ne pourrait pas. Ce serait une œuvre puissante, ce serait une œuvre efficace, mais ce ne serait pas une œuvre d'amour. Ce ne serait pas une œuvre d'amour partagée et communiquée. Je peux faire des choses avec amour pour quelqu'un, mais il n'en sait rien. Donc je le fais avec amour, mais ce n'est pas un amour partagé et communiqué. Il en est de même avec nous pour Dieu. Et le spécifique, l'unique de notre relation à Dieu est toujours là. Et en conséquence... Et ça, j'ouvre une piste, je ne suis pas allé plus loin, si vous en avez le goût, je vous l'ouvre. Ce que j'évoquais au fond, au début, j'étais parti de cela, hein, quand je fais oraison, en fait, je demande, j'aurais peut-être dû... Non, je maintiens, je demande, je vais maintenir ça. Je demande je demande et je ne demande pas pour recevoir quelque chose, je demande pour être reçu. C'est pas pareil. Et cette nature profonde de la demande n'est pas une dépendance. C'est pas une dépendance. Même avec Dieu, ça n'est pas une dépendance. C'est l'exposition et la vulnérabilité inhérente à la relation de confiance dans l'amour. Et cette relation, cette vulnérabilité, cette exposition de soi, elle est exposition de soi dans une relation qui me transforme, dont je ne maîtrise pas tout, je ne peux pas faire le tour de moi-même, ça on sait déjà là, mais je perçois que l'horizon de mon être, il est conjoint avec ma relation à Dieu, et ça dépasse ce que je peux en penser, ça franchit la mort. Alors, c'est une piste que je lance, il y a, je pense, quelque chose là-dedans. Et je m'arrête ici.
Hey, car tu es ma chapelle, ma maison, ma demeure. À tout moment, j'appelle, quand je trouve fermée la porte.
Vous avez écouté la 7e rencontre autour de l'oraison proposée dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom. Vous pouvez nous rejoindre pour ces soirées mensuelles, écrivez-nous à écoleoraisonzoom, tout attaché, à commercialgmail.com pour recevoir les liens de connexion. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel au Québec sur le site www.lecarmel.org. La poésie « Âme, ne te cherche qu'en moi » de Sainte Thérèse de Jésus est mise en musique et interprétée par frère Pierre-Éliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.